BPM, l'association de la semaine.
Et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. Et cette semaine, nous recevons les Marches Normandes présentées par Richard Buand. Tout d'abord, bonjour Richard, comment vas-tu ?
Bonjour Robin, bonjour à tous. Eh bien, ça va très bien, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir, merci d'être venu tout simplement pour nous parler de ton association. Avant de parler de ton association, on va un peu soigner ton ego. On va parler de toi. Qui es-tu pour nos auditeurs, Richard ?
On va se présenter comme bénévole actif, très actif, passionné de rencontres. Et puis, une passion de créer des événements qui font que les gens se rassemblent.
Justement, donc du coup, tu es le président maintenant derrière l'association des Marches Normandes ?
Voilà, depuis 10 ans, président de l'association des Marches Normandes.
Qu'est-ce qui t'a poussé ? Pourquoi est-ce que tu as décidé comme ça de t'impliquer dans la vie associative ?
Ah, c'est l'envie d'être un moteur pour de nombreuses activités. Et puis le bénévolat, c'est très important. C'est ce qui tient énormément d'activités dans notre pays. Sans le bénévolat, il y aurait beaucoup moins d'événements. Et puis c'est très motivant de rassembler des troupes et de créer des événements tous ensemble.
C'est important, ouais, de réunir tout ce tissu associatif et de travailler comme ça, main dans la main.
Tout à fait. Le tissu associatif, au-delà de son rôle d'animation, a aussi un grand rôle social, puisque ça permet à beaucoup de monde de sortir de chez soi, de faire des choses en commun, de rencontrer aussi. Voilà, l'associatif, il n'y a rien de mieux.
Avant de te lancer justement avec les Marches Normandes, tu avais déjà eu des petites expériences au niveau associatif
ou... Oh oui, des décennies d'associatifs derrière moi, avec plusieurs associations locales dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de l'environnement également.
Et un peu dans la culture.
Et beaucoup dans la culture, oui, tout à fait.
Et du coup, pourquoi justement est-ce que tu t'es dit il y a 10 ans maintenant, si je lançais ma propre association ?
Alors, tout simplement parce qu'à un moment, on se dit, il y a quelque chose à faire. On a des belles choses dans notre région, il faut les faire connaître. On a des savoir-faire, des personnes passionnantes dans tous nos petits villages, au bout de la rue, il faut les mettre en valeur. Et avec une association, c'est le meilleur moyen de fédérer tous ces éléments et de faire connaître tous ces personnages, ces lieux, ces événements.
Et l'idée aussi, c'était pour toi de t'entourer, d'avoir suffisamment de personnes autour de toi pour te dire aussi... il y a lui, il y a lui, il y a là-bas, il y a...
Et puis, c'est un ensemble de bénévoles. Déjà, on rigole bien quand on est nombreux. Donc,
c'est important.
Ça a son importance pour créer des choses, la bonne humeur. Et puis, la création, c'est un processus qui est en commun. On ne peut pas être tout seul dans son coin. Il faut absolument être en groupe pour pouvoir créer des belles choses.
Justement, quand vous vous lancez tous ensemble dans la création d'un événement ou autre, comment est-ce que ça se passe ? J'imagine qu'il y a toute une partie un peu brainstorming aussi entre vous.
Alors, c'est beaucoup de dialogue. Chacun apporte ses idées, ce qui fait aussi que l'alchimie de tout ça, parce que chacun a son mot à dire, ça fait une belle alchimie. Et puis, c'est ainsi qu'on crée les bases d'un événement. Et puis, d'être nombreux aussi facilite la réalisation de cet événement, parce que je ne le cache pas, il faut des bénévoles aussi pour organiser quelque chose. Et ça, c'est très important, parce que c'est parfois un véritable travail professionnel, le travail de bénévole.
Oui, c'est clair, ça prend beaucoup de temps.
Ça prend beaucoup de temps. Faut se lever tôt quand on est bénévole, faut se coucher tard quand on est bénévole, faut installer, faut ranger. Il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est très très valorisant. Ça nous met d'entrain, de bonne humeur.
Oui, c'est ça. Il faut quand même une forte motivation, mais en même temps, c'est très gratifiant.
C'est très gratifiant parce que c'est le plaisir de mettre en contact des personnes qui n'auraient pas forcément des choses en commun, mais voilà, on les met en contact et puis on prouve qu'on peut faire des choses tous ensemble, encore une fois.
Et cette volonté via cette association de continuer de marquer justement ce facteur social qui est très important pour toi aussi.
Ah, tout à fait. Et puis là, par le biais des Marches Normandes, c'est aussi un accès à la culture pour tous, parce que c'est très important. La totalité de nos événements sont gratuits, sauf le concert que l'on fait en fin d'année. Ça permet à chacun d'accéder au patrimoine, à la culture, au savoir. On a plusieurs axes aussi très importants, puisque nous orientons beaucoup aussi vers le livre, la lecture. Là aussi, tout ça, ce sont des portes d'entrée vers la culture.
Rendre un peu moins élitiste un petit peu cette culture, qui est souvent un petit peu l'image qu'on a vue de loin en tout cas.
Tout à fait, il n'y a rien d'élitiste, c'est se dire qu'on n'a pas de barrière pour découvrir quelque chose, pour accéder au savoir, découvrir aussi, pousser la porte des villages voisins, découvrir qu'à côté il se passe toujours quelque chose.
Et que peu importe l'endroit où on aura forcément quelque chose d'intéressant, quelque chose d'historique aussi qui s'est passé.
Alors là, tout à fait, parce que là, c'est pleinement un de nos buts. Du moindre petit village jusqu'à une plus grande ville, du bout de la rue au bout du chemin, il y a toujours un monument, il y a toujours une petite curiosité. Ces petites curiosités, ces petites histoires locales qui font toute la grande histoire de France, tout ça mis bout à bout, ce qui fait que on apprend, tout simplement.
Et c'est souvent des histoires méconnues, en tout cas, la majeure partie, en tout cas.
C'est raviver aussi une mémoire qui pourrait disparaître. Là aussi, on préserve aussi cette mémoire. Nous organisons chaque année des visites l'été, des visites de village. Dans chaque village, il y a ce qu'on va dire un érudit, il y a un passionné de son village. Et ben, ça va être le guide, parce que quoi de mieux que d'être guidé dans un village par un habitant du village. Et puis, à chaque fois, il nous fait découvrir tous les petits recoins secrets, ou alors il nous exhume un trésor, une archive. Voilà, on tombe sur des choses fascinantes, même dans des tout petits villages de la région.
Des exemples de villages que vous avez fait dernièrement ?
Des exemples. Moi, j'ai souvenir de villages autour dans le canton de Saint-André-de-l'Eure. Des tout petits villages, je prends le cas de Seret, de Foucrainville, qui sont des villages d'à peine une centaine d'habitants, où nous avons découvert, en l'occurrence Seret, qu'il y avait derrière ce minuscule village toute une histoire en lien avec la facture des instruments de musique à une époque très lointaine, il y a plusieurs siècles, au XVIIe siècle. Et Foucrainville, alors là, plus petit village du canton, 90 habitants, nous avons pu découvrir une église magnifique avec une statue unique, mais qui nous plonge dans les racines de la Normandie il y a un millénaire.
Et ce choix des villages de visite, comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'il faut trouver la bonne personne pour vous faire guider dans le village.
Alors là aussi, c'est un gros travail de la part de l'équipe de l'association, parce que c'est un réseau. Chaque membre de l'équipe connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et puis, c'est comme ça qu'on a abouti à ces visites.
Donc ça rentre vraiment totalement dans l'idée, dans le but de l'association. C'est ce côté culture, histoire et tradition aussi qu'on a dans nos villages.
Tout à fait. Et puis, sauvegarde de la mémoire pour la transmettre au plus grand nombre.
Ça, c'est un lien très fort, j'imagine, avec aussi les associations d'anciens combattants, etc., pour tout ça.
Toutes les associations patrimoniales, parce que l'un des buts aussi des Marches Normandes, c'est de fédérer les initiatives de plusieurs associations pour créer des programmes communs. Donc, nous avons souvent des associations partenaires de la région qui nous font profiter aussi de leur savoir, de ce qu'ils font. C'est aussi de faire découvrir toutes ces associations. Donc, on sert aussi de relais pour l'ensemble de ce tissu associatif.
Donc, très ouvert à tout ce partenariat, ce travail main dans la main avec
avec tout le monde, en fait. C'est vraiment notre philosophie, c'est marcher main dans la main tous ensemble.
D'où les Marches Normandes.
D'où les Marches Normandes. Alors, les Marches Normandes, comme son nom ne l'indique pas, nous ne sommes pas une association de randonnée, mais tout simplement les Marches Normandes, puisque nous sommes situés sur la Marche, la frontière de la Normandie.
Au niveau des bénévoles au sein de l'association, combien est-ce que vous êtes dans l'équipe aujourd'hui ?
Alors, une vingtaine de bénévoles.
C'est pas mal.
Puis tous très actifs, parce que chacun met la main à la pâte quand il y a un événement. Chacun apporte ses idées aussi. C'est régulièrement qu'un bénévole a une idée d'animation, de sortie, de visite, propose et on se lance. On a eu, par exemple, un bénévole qui nous avait proposé une randonnée dans une forêt à la limite des cantons de Passy et de Saint-André. Ce bénévole avait retrouvé toute l'histoire des lieux et puis c'est lui qui a fait le guide.
Ouais. Et l'idée, donc, avec tous ces bénévoles, c'est selon les profils, selon les expériences, un petit peu apporter sa petite touche personnelle.
Chacun apporte son savoir, sa touche personnelle, et puis chacun est à valoriser. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre.
Alors, un sujet qui est à aborder, mine de rien, puisque même si on n'a pas été trop embêté l'année dernière et ni cette année pour l'instant, c'est quand même le sujet de la crise sanitaire. Tout ce côté lien social, forcément, que tu prônes au sein de l'association, j'imagine que ça a été compliqué entre 2020 et 2021, en tout cas.
Tout à fait, ça a été compliqué, mais on fait partie des rares associations qui ont réussi à maintenir un lien avec leurs adhérents, avec les bénévoles, avec les visiteurs également. Au plus fort de la crise sanitaire, quand on était vraiment restreint pour organiser des événements, on a quand même réussi à faire des promenades. Je prends l'exemple en plein cœur de 2020 où c'était, on pouvait faire des choses, mais en groupe très très réduit. On a fait des groupes réduits, on a fait des sorties à 4-5 personnes. Mais on le faisait plusieurs fois par jour pour pouvoir faire profiter le maximum de personnes. Donc, on a maintenu le cap même durant cette période difficile. C'était indispensable. C'était indispensable aussi de maintenir le lien. Et puis, il y avait une demande. Il était hors de question de laisser la population sur le bord du chemin culturel. Il fallait absolument continuer à se battre.
C'est vrai que le monde de la culture est peut-être un des mondes les plus touchés à ce moment-là au niveau de la crise sanitaire. Donc ça devait être très important pour vous de pouvoir continuer justement à le faire vivre.
Ah oui, et ça a été un défi mené par l'équipe avec brio, parce que là, quand toute une journée, on fait des groupes de 4-5 personnes, on va être occupé toute la journée à faire passer de multiples groupes, ça mobilise tout le monde. Et là, il y avait un investissement de chacun très important. Faut vraiment les remercier parce qu'ils ont fait un boulot considérable. Ils continuent de faire un boulot énorme. C'est un travail quotidien.
Tout le monde avait besoin de sortir de toute façon à cette époque aussi.
Voilà, et c'est là aussi qu'on a vu que ça faisait du bien, parce que même masqué, même protégé, il y avait ce besoin de lien, c'était indispensable. Et ces promenades qu'on organisait dans les villages étaient une solution aussi, parce que ça permettait de s'aérer pendant une heure, puis ça permettait aussi de côtoyer autrui, c'était un bonheur.
Et aussi, encore une fois, de découvrir toutes ces petites histoires qui font la grande.
Voilà, exactement.
2022, année moins difficile au niveau sanitaire. Un petit bilan de l'année pour toi, pour l'association?
Alors, un bilan tout à fait positif pour les Marches Normandes, puisque 2022, on a réussi à organiser tous les mois une activité. Durant l'été, une activité par semaine, ce qui est aussi copieux.
C'est intense.
C'est très intense. Et puis avec des points forts, puisque durant l'été, on a poursuivi un cycle de visites des villages. Et puis, petite fierté, parce que ça a été l'année aussi de la deuxième édition de Lire sous les pommiers, le Salon du Livre à Épier, dont une nouvelle édition aura lieu le 2 juillet. Sur la friche des pieds, avec comme coordinateur Stéphane Maillot qu'on connaît pour tous ses ouvrages.
Qu'on a souvent reçu ici sur nos antennes.
Voilà,
aussi.
Que vous connaissez bien. Et grâce à lui, on arrive à une alchimie d'auteurs complètement magique, où sur la friche Airbus, ce village de 300 habitants, on rassemble une quinzaine d'auteurs, d'illustrateurs dans tous les domaines. Et puis, le rendez-vous est avec le public, parce que c'est en toute simplicité. Tout le monde est installé en extérieur, sous des barnums, sous le soleil. Le soleil a été important en 2022. Là, on a eu très, très chaud. Mais le public était au rendez-vous. Et c'est apporter un événement qu'on a l'habitude de voir en ville, mais l'apporter dans une petite commune rurale. Ouais. Et là aussi, c'est très important de prouver que, quelle que soit la taille de la commune, eh bien, on peut faire des choses extraordinaires.
On peut bouger, amener la culture aussi dans les territoires plus ruraux.
Voilà, parce que là aussi, au niveau logistique, c'est un défi énorme, parce que installer un salon du livre en extérieur, dans un petit village de 300 habitants, où à 5h du matin, tout le monde est sur le pont pour absolument mettre tous les stands en place. C'est une logistique énorme. Et puis encore une fois, il faut penser que le soir, toute l'équipe doit tout ranger. Donc ça fait une journée très très intense, mais alors avec un résultat extraordinaire. Et puis là aussi, d'apporter le livre au plus près de tous, là aussi, ça a un côté de permettre à tout le monde de découvrir qui se cache derrière les pages d'un livre. Là, ça a un petit côté fascinant.
Lire sous les pommiers, c'est votre petit bébé. Hein, pour une deuxième édition l'année dernière, la troisième donc dans 6 mois, un peu moins maintenant. Rappelez-nous un petit peu le concept et comment est-ce que vous êtes lancé un peu dans ce projet.
Alors c'est une histoire de rencontre, parce que ça fait des années que personnellement je voulais organiser un salon du livre, je suis féru de lecture. Et puis c'est des rencontres, entre autres comme je le disais, c'est Stéphane Maillot qui a énormément aidé pour concevoir ce salon. Et puis le but, un concept tout simple, c'est se réunir autour du livre, mais sur une friche. Alors on est typiquement en Normandie, puisque cette friche est plantée de pommiers, donc quoi de mieux qu'installer les auteurs sous les pommiers. Ils dédicacent leurs livres. On est en extérieur, donc en plein été, en plus, c'est propice au dialogue avec avec les lecteurs. Là, on peut prendre aussi le temps de parler. Ça aussi, c'est important. Il y a des temps forts, il y a des lectures. Alors, des lectures publiques. Alors là, c'est extraordinaire parce que on installe des ballots de paille. Et puis, bah, les auteurs et le public s'installent sur ces ballots pour des lectures de leurs livres. Et puis, ça donne lieu à des échanges dans ces petites arènes en paille. On peut aussi des pique-niques littéraires. Alors, comme le salon reste ouvert durant le déjeuner, bah, chacun peut apporter son pique-nique pour pique-niquer tous ensemble avec nous, avec les auteurs, avec toute l'équipe. Et puis, voilà, ça aussi, c'est des moments de dialogue. On n'est pas forcé de passer la journée, mais on peut juste venir pour papoter.
Se balader tranquillement.
Voilà. Tout à fait, c'est le but, voilà.
Et entre guillemets, plus accessible du coup pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas à se devoir aller dans une salle et faire le tour de la salle. Là, c'est vraiment, bah, si on se balade, bah tiens,
on peut s'arrêter.
Aller voir tous ces gens avec leurs livres.
Voilà, quel est cet attroupement sur la place du village? Bah, c'est tout simplement lire sous les pommiers et puis bah, voilà, un petit passage, on papote, on grignote un morceau et c'est gagné.
2022, c'était une année importante aussi pour l'association, puisque c'était les 10 ans de l'association.
Et alors, pour les 10 ans de l'association, on est un peu fou. On s'est fait un deuxième salon du livre. On a inauguré Saint-André en livre à Saint-André-de-l'Eure le 1er octobre. Et là, ça a été une très, très belle surprise, très agréable, parce que quand on a proposé le projet, la municipalité a tout de suite dit oui. Tout de suite, ça a été vraiment... ça a matché entre nous. Et puis, tout le monde a suivi et le résultat a été très intéressant, puisque là, une vingtaine d'auteurs dans une salle en plein centre-ville, un samedi après-midi où il y a eu énormément de passages, où là aussi, le but était aussi que chacun s'attarde pour pouvoir prendre le temps de parler avec les auteurs. Et là aussi, j'insiste, c'est très important parce que tout le monde y a trouvé son compte. On avait de l'historique, du polar, du roman, on avait des auteurs jeunesse et ça a marché pour tout le monde, que des retours positifs. Et puis c'était la première fois dans l'histoire de cette commune qu'il y avait un salon du livre. Donc du coup, on récidive, voilà, on va récidiver le dernier samedi de septembre, deuxième édition de Saint-André en livre.
Donc encore beaucoup de choses.
Encore beaucoup de choses. Là aussi, on renouvellera le choix des auteurs, parce que là aussi, c'est proposer une diversité. C'est important aussi de varier,
de trouver un nouveau public.
Aussi. Un nouveau public et puis de remplir pour tous les goûts. Il y en ait pour tout le monde. Donc c'est voilà, le travail a déjà commencé.
Parlons donc de 2023. On l'a dit, lire sous les pommiers, on en a déjà parlé. Ce salon du livre à Saint-André. Sinon, 2023, ça a déjà commencé pour vous la semaine dernière avec les nuits de la lecture, un bel événement dans le froid.
Ah oui, alors un bel événement, un événement national, parce que là aussi c'est l'occasion pour les Marches Normandes de participer à un événement national. On a fait partie à Ivry-la-Bataille des 500 sites en France à participer à cette nuit de la lecture. Et puis, nous, on l'a vu d'une façon un peu originale. Au lieu d'être enfermé dans un lieu à lire, on s'est dit, on va faire une balade dans les rues, une balade effrayante dans les rues de la ville. Et puis, c'est où chacun était amené à venir avec ce qu'il lit. Sur le thème de la peur, puisque c'était le thème des nuits de la lecture de cette année. Et puis là aussi, c'est drôle, parce que même si on était frigorifié, on a parcouru la ville, on s'est retrouvé au pied de l'église sous les gargouilles, on a découvert la rue de la prison, la porte de l'abbaye, des ambiances assez mystérieuses, des petites anecdotes aussi pour resituer un peu les choses. Et puis chacun a sorti son livre coup de cœur, a lu des extraits, et tout le monde a répondu à l'appel de la peur pour cette nuit de la lecture.
Donc ça lance une grande année 2023, beaucoup d'événements, donc un petit listing de ce qui va se passer tout au long de l'année.
Alors en février, on va se retrouver le 11 février à la bibliothèque d'Ivry-la-Bataille, où on va faire connaissance avec une décoratrice, puisque là aussi un des buts des Marches Normandes, c'était de faire connaître les savoir-faire locaux. Une décoratrice de la ville qui va nous parler de son métier, qu'est-ce qu'être décoratrice. Là aussi, ça va donner lieu à un échange également, parce que l'un des buts, c'est tous ces savoir-faire qu'on a à notre porte, de les mettre en valeur. On aura aussi au fil des mois une jeune joaillière qui va venir nous parler de son travail, parce qu'elle est toute jeune et elle a un savoir immense. Et puis, elle va nous partager son amour pour toutes les pierres. Là aussi, c'est un grand moment. Puis c'est quelque chose qui n'est pas commun non plus à découvrir dans notre région. On a quelque chose de très original, un partenariat avec l'association Naturellement Reuilly, où en avril, on va participer à la Nuit de la Chouette.
Ah oui. Alors, j'ai déjà entendu parler.
Là, ça va être l'occasion de se faire une petite balade nocturne, de découvrir grâce à cette association le travail qu'ils font. Et le petit lien, c'est que, avec les Marches Normandes, c'est que cette association a installé un nichoir à chouettes dans l'église des Pieds, église qu'on fera visiter également. Donc, on allie le côté nature, le côté patrimoine, voilà, tout ce qui nous plaît, en fait. Mmh. Voilà, on va se faire plaisir. On a Pierre en Lumière en mai. En mai, alors le 13 mai, la Pierre en Lumière, la date vient d'être annoncée et on va répondre à l'appel du département où là, on va concocter une... On va concocter pour toujours dans le village des Pieds une balade autour de l'église, mais avec comme le thème des lumières. Donc l'année dernière, on avait illuminé d'une centaine de bougies l'église.
Ouais.
Là, on va se diriger plutôt vers éclairer l'extérieur. Donc on réserve une petite surprise. Voilà, une belle petite projection sur les murs.
Faudra venir voir.
Voilà, exactement, faudra venir voir. Et puis, on va arriver à l'été. Alors, l'été va être copieux, encore une fois, pour les Marches Normandes, puisqu'on va répondre à Partir en Livre. Partir en Livre, c'est une manifestation nationale qui permet là aussi de faire découvrir la lecture. Ça va donner lieu à une promenade littéraire. On l'avait fait l'année dernière. Bah, on récidive. Et puis, bah, le 2 juillet, Lire sous les pommiers. La troisième édition de Lire sous les pommiers. 15 auteurs déjà de prévus. On retrouvera nos lectures publiques sur les ballots de paille, notre pique-nique littéraire. On a des auteurs qui vont aussi nous faire des petites démonstrations parce qu'on, parmi eux, il y a des artistes, des illustrateurs, des illustratrices. Là, c'est le moment de découvrir tout ce qu'ils savent faire tous ensemble. Et puis, ils le feront devant le public.
Là, pour une fois, très varié.
Très varié. Le but est de varier et puis d'exciter la gourmandise du public, leur donner de belles choses, des belles gourmandises littéraires à découvrir. Et puis, l'été sera l'occasion aussi de renouveler un cycle de visites dans les villages du secteur. Alors, on se travaille beaucoup l'esprit. Hein. Tous les bénévoles sont sur le pont pour varier encore les villages.
Et trouver les nouvelles pépites.
Et trouver des nouvelles pépites parce qu'il y en a partout des pépites, mais on va en trouver. Et puis là, ça va nous permettre aussi de faire ce circuit. Chaque semaine, un village différent. Là aussi, copieux. Hein. C'est,
oui, voilà. Surtout l'été.
Voilà, surtout l'été et sur tout le territoire parce que là aussi, une de nos particularités, c'est de ne pas nous limiter géographiquement.
Ouais.
Donc là aussi, pas de limite dans le savoir. Il y a toujours quelque chose à savoir partout.
Tout à fait.
Pour faire simple.
Tout à fait.
Donc pourquoi se limiter à des limites géographiques, administratives? Non, nous on fonctionne pas comme ça. Nous on fonctionne avec tout le monde.
Ça va bien au-delà de ça.
Ah oui, nous on est complètement au-delà de ça. Il y a un côté de l'humain à mettre en valeur aussi par le biais de tous ces éléments. Donc pas de limite. Tout le monde est bienvenu. Septembre, ça sera déjà l'heure des journées du patrimoine. Journée du patrimoine, alors nous, notre tradition, c'est de faire des événements le soir. Donc, on va s'acheminer vers une exposition nocturne, certainement, pour les journées du patrimoine. Et puis, ça sera la deuxième édition de Saint-André en Livre.
Oui.
Alors là, le dernier samedi de septembre, Saint-André en Livre, dans la salle de l'espace de la Mère Michel à Saint-André-de-l'Eure, petite salle qui est en centre-ville. Mais là aussi, on va à nouveau apporter une vingtaine d'auteurs dans tous les domaines. Et puis, c'est un défi fou pour une petite association comme la nôtre d'organiser deux salons du livre par an. C'est énorme, énorme. Là encore, je félicite le travail de l'ensemble de l'équipe parce qu'ils font un travail considérable. On n'imagine pas le boulot que c'est. Et un grand merci parce qu'ils sont d'une efficacité incroyable.
Et puis, on va terminer cette émission avec le mois de décembre aussi, qui est un moment très important pour l'association.
Alors, petite parenthèse, en octobre, on sera à nouveau au pied de l'obélisque d'Ivry, puisque...
Avec les portes ouvertes.
Voilà, les portes ouvertes, c'est un peu la tradition de rappeler le passage d'Henri IV, de Bonaparte, d'un tas de personnages connus au pied de ce monument qui symbolise le lieu de la bataille d'Ivry. Et en décembre, ça sera la 10e édition d'En attendant Noël. Alors là, 10e édition, qui dit 10e édition, 10 jours de programmation où on aura des ateliers, des expositions, des concerts, un grand concert final pour clôturer cette édition d'En attendant Noël, grand concert dans l'église d'Ivry-la-Bataille. Et durant ces 10 journées de festival, on parcourra 10 communes du plateau et la vallée de l'Eure.
Et de quoi plaire à tout le monde.
Et de quoi plaire à tout le monde. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
Et toutes ces informations, si jamais, on pourra les retrouver assez facilement sur votre page Facebook, c'est ça?
Voilà, la page Facebook Les Marches Normandes, tout simplement pour retrouver toute la vie de l'association.
Eh bien, merci beaucoup, Richard Buon.
Merci, Robin, et à bientôt.
Merci d'être venu nous présenter les marches normandes. C'est tout pour votre émission, l'association de la semaine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.